RTL Info.
Le journal Claire Viget.
Bonsoir. Les mesures prises pour redresser la barre de la société de navigation sont réjouissantes pour le gouvernement neuchâtelois. Le Conseil d'État se félicite également qu'une étude soit menée quant à l'opportunité d'une fusion entre la LNM et Cap Gourmand. Le projet du canal entre le lac de Neuchâtel et le lac Léman perd un de ses acteurs emblématiques. La société Trans-Helvetica a été liquidée cette semaine. La Suisse, partie prenante dans un gigantesque projet ferroviaire, un train bio-océanique qui traversera le Brésil, le Pérou et la Bolivie. Des entreprises suisses et allemandes ont créé un consortium. Nuages et précipitations au programme de ces prochaines heures. La limite de la neige s'abaissera vers 500 à 700 mètres. Yannick vous explique tout ça d'ici un petit quart d'heure.
Oui, je le ferai.
Autodesk confirme la fermeture du site de Neuchâtel à mi-2018. L'entreprise américaine spécialisée dans l'informatique annonce que plus de la moitié des 232 employés se verront proposer des réaménagements de leurs conditions de travail. Les salariés concernés pourront travailler depuis leur domicile ou seront relocalisés dans d'autres bureaux en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. Les personnes dont le poste aura été supprimé recevront des indemnités de départ qualifiées d'équitables par un porte-parole de l'entreprise. La réorganisation de la LNM est une bonne nouvelle aux yeux du Conseil d'État neuchâtelois. Hier soir, en Assemblée Générale Extraordinaire, la Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat a nommé Frédéric Geisbühler comme nouveau président. Le gouvernement se dit également confiant du choix de l'Assemblée d'étudier l'opportunité d'une fusion entre la LNM et sa filiale en charge de la restauration Cap Gourmand. Les deux conseils d'administration sont désormais composés des mêmes personnes. Une décision qui réjouit le conseiller d'État en charge du développement territorial, Laurent Favre.
Oui, c'est absolument nécessaire dans le sens où Cap Gourmand est la société fille de LNM et en tant qu'actionnaire et subventionnaire de LNM, on doit savoir ce qui se passe dans cette société de Cap Gourmand. Dès lors, idéalement, une fusion des deux sociétés devrait être réalisée, mais effectivement, il faut l'examiner techniquement, légalement, avant de le faire, pas sous-estimer les problèmes que ça pourrait aussi provoquer. Dès lors, on a demandé cet examen et entre-temps, il faut que les deux conseils d'administration soient composés des mêmes personnes pour qu'elles aient, en termes de gouvernance, toute la vision, la transparence du fonctionnement des deux sociétés quand elles prennent des décisions. C'est ce qui a pêché, ce qui était une grosse lacune par le passé.
Favre au téléphone d'Adrien Juvet, entretien complet à retrouver sur rtn.ch. Cap clap de fin pour Trans-Helvetica, la société anonyme pour une voie navigable trans-helvétique a été liquidée ce début de semaine dans une information parue dans la feuille officielle suisse du commerce. Trans-Helvetica œuvrait principalement pour la création d'un canal entre le lac Léman et celui de Neuchâtel afin de relier le Rhône au Rhin. Mais la fin de la société ne signifie pas la fin du projet. Le désormais ex-délégué de la ville de Neuchâtel au sein du comité de Trans-Helvetica, Pierre-Olivier Aragno.
Trans-Helvetica était vraiment une société de réalisation d'un canal. Par contre, cette idée va subsister dans le cadre de l'Association Suisse pour la Navigation Intérieure, qui est une autre association qui existe, qui a à peu près les mêmes objectifs. Et puis, c'est dans le cadre de cette association que se poursuivra ce rêve, cette utopie, mais qui, pour nous, a quand même un intérêt à long terme.
Quels sont les avantages, en fait, de cette navigation fluviale en Suisse par rapport au reste ?
Alors, la navigation fluviale, elle est un peu plus lente, c'est un peu le point négatif. Par contre, le point positif, c'est que au niveau environnement, c'est beaucoup plus intéressant. Une péniche peut transporter beaucoup plus de matériaux avec beaucoup moins d'énergie qu'un poids lourd, par exemple, ou qu'un transport ferroviaire. Donc, c'est écologiquement plus intéressant. Et puis, on peut transporter des grands volumes. Et en plus, ces volumes, on ne va pas les retrouver sur les routes. Donc, ça permettrait aussi de désengorger les voies de circulation qui sont plutôt tendues au bord du lac, que ce soit au niveau du lac Léman, lac de Neuchâtel, lac de Bienne. On a une circulation très dense. Si on peut mettre une partie sur le lac, ce sera de gagner. Et puis, si c'est écologiquement intéressant, ça vaut la peine d'explorer cette voie.
Des propos recueillis par Yann Esler. Vous trouverez plus d'informations sur rtn.ch. Le parc du Doubs prend de la bouteille et le bilan est positif. 5 ans après avoir été reconnu parc d'importance nationale, de nombreux projets ont été réalisés avec les 16 communes des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Une bière 100% parc vient d'être mise en bouteille et les visites chez des éleveurs des Franches-Montagnes sont un succès. Le président du parc du Doubs, Bernard Sogel, dévoile quel est, selon lui, le défi majeur de ces prochaines années.
C'est de jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique.
il ne se passe pas une semaine, sinon un jour, où des études sortent et sont relayées dans la presse sur les méfaits du réchauffement climatique. Et évidemment que les parcs peuvent jouer un rôle efficace à leur petite échelle des régions qui couvrent. Évidemment, j'invite les autorités, d'une manière générale, à utiliser les compétences des parcs dans ce sens-là.
Vous dites que les parcs peuvent jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment, par exemple ?
Mais par des projets qui permettent de prendre en compte un des objectifs principaux des parcs, qui est défini par la législation fédérale, c'est le développement durable. Donc on favorise par exemple des projets dans le domaine de l'énergie. C'est des appuis, des conseils qui sont donnés aux communes, la mise en réseau des possibilités qu'il y a à développer plutôt du solaire que l'utilisation du pétrole et du mazout pour produire de l'énergie.
Bernard Seguel répondait à Marie Vieumier. Les travaux de rénovation de la gare de Fleurier touchent à leur fin. Une des dernières touches apportées au chantier, c'est l'installation de deux cabanes particulières. Il s'agit de nichoirs destinés à des hirondelles, des martinets et des chauves-souris. Ces espèces avaient l'habitude de se mettre à l'abri dans les dépôts qui ont été démolis. Les cabanes ont été conçues et réalisées par une entreprise de menuiserie et charpente de la région. Transène a financé la construction comme mesure de compensation après avoir consulté un écologue, Yann Montandon, et chef de projet infrastructure chez Transène.
On a gardé l'idée de construire ces nichoirs dans la zone de la gare. On a essayé d'intégrer au mieux ces nichoirs. Ils font quand même 2 mètres sur 2 mètres et à peu près 5 mètres de haut. Donc ça a quand même une conséquence visuelle. Mais comme dans une gare, il y a beaucoup de poteaux pour la ligne de contact, on a réussi à intégrer ça au mieux possible. Et ils se situent vraiment en gare de Fleurier, côté Mottier. Il y a les deux nichoirs posés les uns à côté des autres.
Ils sont là, le long de la voie de chemin de fer ?
Oui, alors c'est vraiment à côté de la voie de chemin de fer. On s'est renseigné s'il y avait des problèmes par rapport à cette proximité, mais il n'y en a vraiment aucun. Donc on a essayé d'intégrer ça le mieux possible.
Ces animaux ne sont pas sensibles au bruit, aux vibrations ?
Alors non, selon les experts, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Eux, ce qui compte, c'est vraiment qu'ils aient cet abri et cette possibilité de venir dans ces nichoirs.
Des propos recueillis par Marie-Lise Saillard. Parce qu'elle est une femme, elle n'a pas pu faire les scouts. Pour la même raison, personne ne lui donnait la moindre chance de lancer sa propre marque de montre. Et pourtant, plus de 20 ans plus tard, Gisèle Rouffert est toujours à la tête de l'entreprise de Lens. Et elle se bat encore pour que les compétences des femmes soient mieux reconnues. De retour d'un voyage en Arabie Saoudite, elle sera l'invitée de notre page magazine économique pour évoquer son histoire un peu folle, son entreprise et la condition de la femme en Suisse et en Arabie Saoudite. Sortie de boîte avec Gisèle Rouffert, c'est après ce journal à 18h30. Les Fribourgeois célèbrent aujourd'hui le conseiller fédéral Alain Berset, élu la semaine passée à la présidence de la Confédération pour 2018. En tournée à travers le canton, le socialiste a été acclamé dans son village de Belfaux. Le chef du département fédéral de l'Intérieur et une foule d'invités ont quitté Berne en train spécial peu après-midi. Étaient présents notamment l'actuelle présidente de la Confédération Doris Leuthard, de nombreux parlementaires fédéraux, ainsi que l'ancien président de la Confédération, le Fribourgeois Joseph Deiss. Pas de supplément pour l'AVS. Le Parlement a décidé de ne pas accorder 370 millions de francs dans le budget 2018. Le Conseil des États a refusé aujourd'hui cette proposition de la conférence de conciliation. Cette somme servira à réduire la dette. La Suisse soutient activement la réalisation d'un Panama ferroviaire. Elle collaborera avec la Bolivie au projet de corridor bi-océanique, une ligne de 3750 km reliant les ports des ports péruviens et brésiliens. Son coût est estimé à 12 voire 15 milliards de dollars. La présidente de la Confédération, Doris Leuthard, et son homologue bolivien, Evo Morales, ont signé une déclaration d'intention portant sur leur coopération dans ce domaine. C'était ce matin à Berne. Des entreprises suisses seront impliquées, dont Molinari Rail. Pour son directeur, le projet qui doit être mené à bien d'ici 2025 est réalisable. Michele Molinari.
La grande partie de la trace ferroviaire existe. Il faut que, entre guillemets, connecter la partie bas avec la partie haute de la Bolivie. Et là, nous Suisses avons la technologie qu'il faut et la connaissance. Après, il faut la partie en Pérou. Ça, il faut construire. Et ça, c'est pas comparable à aucun autre projet.
Certains s'inquiètent de possibles dégâts environnementaux, de non-respect des droits humains et de risques de corruption. Peter Fuglistaller, directeur de l'Office fédéral des transports.
Oui, c'était discuté ce matin. C'est vraiment la... Toutes ces questions que vous avez posées sont connues. Et nous avons l'impression que la Bolivie prend ces questions vraiment sérieux. Mais c'est vrai, c'est à voir pendant ce projet qu'est-ce qui sera réalisé.
Donc il y aura quand même une espèce de surveillance de la part de la Suisse?
Non, il n'y aura pas de surveillance dans ce cas, mais il y a plutôt un support de la Suisse.
Des propos recueillis par Jérôme Favre. Doris Leuthard a par ailleurs rappelé que la Suisse continue de soutenir la Bolivie dans ses efforts pour améliorer l'accès à la justice. Les écoles polytechniques fédérales veulent augmenter la part de femmes dans l'enseignement et la recherche ainsi qu'au poste de direction. Une stratégie pour l'équilibre des genres a été lancée pour la période 2017-2020. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le Conseil des écoles polytechniques fédérales. Premier show de candidat présidentiel pour Poutine. L'actuel président russe a annoncé sa candidature à un quatrième mandat la semaine passée. À 3 mois des élections, il s'est défendu de vouloir écarter toute opposition lors de sa conférence de presse annuelle. Il s'est posé en défenseur des intérêts de la Russie face aux accusations d'ingérence aux États-Unis. Il a également insisté sur le fait de vouloir augmenter le niveau de vie des Russes. Le géant pharmaceutique Teva biffe un quart de ses effectifs. Le groupe israélien numéro 1 mondial des médicaments génériques, confronté à de sérieuses difficultés financières, a annoncé la suppression de 14 000 emplois dans le monde sur 2 ans. L'ancien fleuron de l'industrie israélienne a présenté aujourd'hui, jeudi, ce plan de restructuration douloureux devant lui permettre de faire près de 3 milliards de francs d'économies d'ici fin 2019.
RTN, il est 18h11.
Sport. Double axel, triple saut et boucle piquée, des figures à découvrir demain et samedi au patinoire du littoral à Neuchâtel. Les championnats de Suisse de patinage artistique s'y déroulent. Une petite quarantaine d'athlètes présenteront leur programme en individuel et en couple pour les élites et en danse sur glace en catégorie senior et junior. Du côté des patineurs de la région ou membres d'un club neuchâtelois, il y en aura 4, Camille Chervet, Pauline Irman, Thomas Guarino-Sabaté et Nicolas Todeschini. Ce dernier est le seul à avoir une réelle chance de podium. Il n'y a donc pas beaucoup de régionaux pour ces joutes nationales. L'occasion de se demander comment se porte la relève du patinage artistique dans le canton. Le président du club des patineurs de Neuchâtel Sport, Franco Gaudiano.
Elle se porte pas trop mal. On a dans les catégories un peu inférieures, donc en cadet U14, Jaël Chervet, qui fait d'excellents résultats, qui est pressenti pour devenir championne suisse de la catégorie. Nous avons en catégorie junior, avec le club de la Chaux-de-Fonds, Maya Mazzara, qui a toutes ses chances de podium, voire de remporter les championnats suisses juniors au mois de janvier. Et pour les autres, on a un top 5 de nombreux patineurs de Neuchâtel dans les différentes catégories.
Des propos recueillis par Jean-Paul Pitchy. L'entrée au championnat de Suisse de patinage artistique, l'entrée est gratuite. Le skieur autrichien Matthias Mayer a signé le meilleur temps du deuxième et dernier entraînement en vue de la descente de Val Gardena programmée samedi. Sur la piste italienne, aucun skieur suisse n'a terminé dans le top 20 lors de cette séance perturbée par le brouillard. Le meilleur élevette a été le Schweizois Urs Krionbühl. Il s'est classé 25e. Beat Feuth termine au 39e rang. Très belle performance des Suisses lors du coup d'envoi de la saison de snowboard. Le grison Nevid de Galmarini a pris la 2e place aujourd'hui du géant parallèle de Coupe du Monde à Carezza en Italie. Dario Cavizzele s'est classé 3e. Le grison signe son premier podium dans la discipline. En biathlon, Célina Gasparin a brillé aujourd'hui lors de l'épreuve du sprint du Grand Bornand avec une 6e place. La grisonne s'est classée pour la première fois de la saison dans le top 10. Elisa Gasparin s'est également distinguée, mais pas au niveau de la Coupe du Monde. La sœur de Célina a pris la 3e place d'une course de la Coupe IBU. Elle a ainsi rempli la moitié des critères de sélection pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. On lui faut encore prendre place dans le top 25 d'une épreuve de Coupe du Monde. Enfin, l'équipe de Suisse de football a choisi son camp de base pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. La Nati prendra ses quartiers à Toliati, dans la région de Samara. Les joueurs s'entraîneront au stade de Torpedo à 10 minutes en bus de leur hôtel.
18h15 sur RTN, on va prendre quelques nouvelles de la météo, mais juste avant, prudence, si vous êtes sur la route, notamment dans les montagnes neuchâteloises, on nous signale de la pluie givrante et des chaussées donc extrêmement glissantes. Prudence. Et des précipitations qui vont encore se renforcer durant ces prochaines heures. Elles vont se poursuivre en soirée et durant la nuit prochaine. La limite des chutes de neige varie beaucoup, elle aussi entre 800 et 1200 mètres d'altitude. Pour demain, le ciel sera encore nuageux au début avec les dernières averses sous forme de neige des 700 à 900 mètres d'altitude. Retour ensuite à un temps sec avec même quelques belles éclaircies. Les nuages seront pas très loin pour autant, ils reviendront en force en fin de journée, le tout accompagné de précipitations. Les températures, moins 1 à 3 degrés le matin, il fera 5 au meilleur de la journée en région de plaine, 1 degré à 1000 mètres d'altitude.